Le thème de ce matin, c'est Frayons le chemin et aplanissons une route pour le Seigneur. Frayons le chemin et aplanissons une route pour le Seigneur. Je vais aborder trois points dans ce message. Le premier point, dans le désert ou dans les nuits noires de notre âme, que doit-on faire? Dans le désert ou dans la nuit noire de notre âme, que doit-on faire? Le deuxième point, nous aborderons Dieu se révèle comme consolateur qui pose des règles. Il se révèle comme consolateur qui pose des règles. Enfin, nous terminerons par quelle aura été l'importance de ces images parlantes dans ces deux passages. Quelle aura été l'importance de ces images parlantes dans ces deux passages. Le prophète Ésaïe, parce que c'est de lui qu'il s'agit dans Ésaïe 40, et Jean-Baptiste, dont il s'agit dans Luc chapitre 3, sont tous les deux des agents de Dieu. Mais en fait, une voix qui crie dans le désert, une voix que Dieu fait entendre à travers le désert. Et quand on nous parle du désert, nous pouvons nous représenter ce que le désert signifie. Le désert peut signifier deux choses. Le désert peut symboliser une punition, un jugement que Dieu envoie à son peuple, qui certainement s'est mal conduit, et qui pour le ramener sur la bonne voie, il le fait passer par le désert. C'est ce qui se passe ici dans ce passage, on va le voir tout à l'heure, où au chapitre 40, Ésaïe parle, introduit en disant « Consolez, consolez mon peuple. » Parce que le peuple est dans un désert qui a duré longtemps. On va le voir. Mais le désert peut aussi représenter un cadre ou tout simplement un lieu que Dieu peut choisir afin de nous aider à le redécouvrir mieux que nous l'avons découvert avant. Et donc, possiblement pour nous amener à prendre conscience qu'il est là, que nous devons tenir compte de lui et redécouvrir ce qu'il est et retourner à lui. Bien-aimé, quand Dieu fait passer ceux qui lui appartiennent par le désert, c'est une opportunité dont il faut profiter. Souvent, quand les gens passent par des moments difficiles et qu'ils rencontrent les Watumishi et les Wajakazi, on leur dit, en tout cas, ça ne marche pas. Fanyenin, wombe mungu san. Ou alors on te dit, il faut qu'on prie pour toi. Et pour qu'on fasse bien la prière, parce qu'il y a des prières selon les prix. Il y a des prières qui valent 10 dollars. Il y a des prières de 20. Il y a des prières de 100. Et des prières de 1000 et de 5000 dollars. Alors si c'est un grand problème, on ne te demandera pas 20. C'est facile à avoir. On pourra te demander de chercher 500 dollars pour que la prière soit bien faite. J'ai appris qu'il y a des groupes ici où on commence à chercher. On va veiller pour toi, mais on te demande d'acheter du sucre, du café, mais aussi du lait pour ceux qui vont veiller pour toi. Quand on commencera à faire ça, Goma Ouest, les gens vont se poser la question. Ça ne peut pas se faire ici. Et les gens le font quand même, n'est-ce pas? Les gens le font, achètent du café parce que les ténèbres couvrent la vie de ceux-là et il faut les aider à s'en sortir. Je disais donc, quand nous passons par le moment des déserts, il faut en profiter. C'est une opportunité, disais-je, incroyable pour développer mon intimité avec le Seigneur, mais aussi une forte dépendance placée sur Dieu. Les déserts ne viennent pas pour rien. Osée chapitre 2, verset 14, il dit, « Je les conduirai au désert. » Et là, il parlerait à son cœur. Alléluia. Ça dit qu'il y a des moments que le Seigneur peut permettre dans notre vie parce que nos oreilles n'écoutent plus, parce que nos yeux ne voient plus rien. Alors le désert constitue un moment incroyable que le Seigneur nous ouvre pour que nous puissions entendre sa voix, l'écouter, nous parler. Et donc s'il y a des occasions importantes dont il faut pas vraiment, qu'il ne faut vraiment pas manquer dans notre vie, c'est les déserts qui envahissent notre temps. Mais c'est aussi les moments des ténèbres qui peuvent couvrir notre cœur ou alors jalonner notre parcours. C'est ce qui se passe en RDC où la crise a trop duré. À un moment donné, on croyait qu'en élisant, vous connaissez son nom, je ne vais pas citer son nom, en 2006, on allait résoudre tous les problèmes de la RDC, n'est-ce pas? En 2011, en renouvelant un mandat, on a cru qu'on allait résoudre tous les problèmes de la RDC. Là, il y a eu beaucoup de promesses. En 2018, nous avons tous été là pour élire. Dieu seul sait si celui que nous avons élu, c'est celui qui est au pouvoir. Et j'entends les gens dire, « Inchi haina, haina bat. » Et donc la crise se prolonge. La crise se prolonge et quelqu'un d'entre nous, chacun d'entre nous se pose la question jusqu'où ira cette crise. Mais en tant que Congolais, croyants, quel profit, bien-aimé, pouvons-nous tirer de cette crise qui se prolonge? Je vous invite à lire Ésaïe 50, verset 10. Il est dit ceci. « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui craint le Seigneur, qui écoute la voix de son serviteur ?» Et qui ait marché dans les ténèbres sans trouver aucune clarté. Qu'il fasse quoi? Qu'il mette son assurance dans le nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui craint le Seigneur, qui écoute la voix de son serviteur, c'est-à-dire ses prophètes, ses porte-paroles, et qui ait marché dans les ténèbres sans trouver aucune clarté? La proposition. La solution qui est donnée dans ces passages est qu'il faut mettre son assurance dans le nom du Seigneur et s'appuyer sur lui. Alléluia. C'est ça la solution, bien-aimé. Peut-être que les ténèbres se prolongent dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle. Il n'y a rien de clair par rapport à votre avenir. Appuyons-nous sur le Seigneur et mettons notre assurance. En tout cas, ici, il y a les ténèbres qui sont là, qui s'imposent. Et de l'autre côté, il y a une clarté de lumière qu'on peut trouver du fond des ténèbres. Et cette clarté de lumière ne vient que du Seigneur. Imaginez-vous quelqu'un qui marche dans les ténèbres et qui, effectivement, parce qu'il a une petite lampe torche, ah, il m'arrive de faire le sport et puis je reviens le soir et puis je suis en train de marcher dans les ténèbres de l'ULPG. Je constate que la pile de la radio là s'éteint. À ce moment-là, vous êtes dans la confusion. Vous êtes en train de rouler sur une route pendant la nuit, mais vos phares s'éteignent brutalement. Les ténèbres, alors que vous aviez une lumière, les ténèbres viennent brutalement vous couvrir. Vous êtes dans une situation de tristesse. Vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous vous sentez abandonné, parce que c'est par la lumière qu'on peut voir les obstacles, n'est-ce pas? C'est par la lumière qu'on peut discerner qu'il y a un ennemi sur la route ou autour de la route. C'est par cette petite lumière qu'on peut, si c'est une route, on va trop loin et qu'il y a quand même des panneaux indicateurs, on peut encore lire sur les panneaux indicateurs. Mais si cette lumière n'est plus là, on est en situation difficile. C'est cela qui arrive lorsqu'on marche avec Dieu et qu'à un moment donné, brusquement, les ténèbres agite votre vie. La sœur venait de parler de femmes sans enfants. Vous venez de célébrer un mariage avec pompe, avec beaucoup de joie, une vie faite de beaucoup de promesses. Puis 3 mois passent, 6 mois passent, une année passe. C'est la lumière ou c'est les ténèbres? Ténèbres. Vous vous sentez perdu. Vous risquez même de dire « Maudit soit le jour où je me suis marié ». Non. Lorsque les ténèbres sont là, il ne faut pas perdre l'équilibre. À ce moment, bien-aimé, on passe par ce qu'on appelle, quelqu'un l'a appelé le Sahara du cœur ou le désert du cœur. Vous connaissez que le désert du Sahara, c'est ce qui nous sépare du pays des pays de Maghreb et le pays de l'Afrique subsaharienne. Mais les philosophes ont parlé de la nuit noire de l'âme. Il arrive dans notre vie où nous passons par ce qu'on appelle la nuit noire de notre vie. Vous ne comprenez plus rien. Vous ne comprenez plus. Quelle est la raison de votre souffrance? La prière ne représente plus rien pour vous. L'adoration, plus rien pour vous. La parole de Dieu, plus rien pour vous. La louange, plus rien pour vous. Vous voyez les gens en train de louer, vous dites, ah mais ces gens, moi je ne suis même plus capable de faire ça. Parce que vous passez par la nuit noire. C'est par exemple les moments de chômage, les temps de maladie qui se prolongent, la perte d'un être cher, une attente prolongée d'un enfant, lorsque les affaires ne marchent pas, ou en famille, il y a beaucoup de problèmes. Au travail, il y a beaucoup de problèmes. Des problèmes qui persistent et qui ne finissent pas. Et donc, chaque moment d'épreuve de toutes sortes qui peuvent tomber sur nous peut paraître à nos yeux comme le jugement de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que le silence de Dieu, l'absence de Dieu, ou le silence de Dieu plus exactement, le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu peut garder silence pour un temps, mais il ne prolongera pas indéfiniment ce silence. Alléluia. Parce que c'est là où nous croyons que Dieu n'est pas là. C'est justement là que Dieu se cache. Il est important d'ouvrir les yeux, de discerner qu'est-ce que je peux tirer comme profit de ces ténèbres qui me couvrent, de ce désert par lequel je marche. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Deuxième, alors Dieu se révèle comme consolateur qui pose des règles. C'est ce qui est dit en Ésaïe 40. Lorsqu'on adresse, Ésaïe adresse le message, il dit « Consolez, consolez mon peuple ». Le message qui traverse en filigrane le chapitre 40, ceux qui lisent la Bible très bien comprendront. Si vous commencez au chapitre 40, vous allez jusqu'au chapitre 55 d'Ésaïe. Tous ces chapitres, tous ces 16 chapitres ont un seul message, message de consolation. Dieu, le consolateur de son peuple. Pourquoi ce message? Juda est déporté à Babylone et ça va durer beaucoup d'années. De 587 jusqu'en 86 avant Jésus-Christ. 587 jusqu'à 86 avant Jésus-Christ. C'est combien? 500? 501. 5 siècles. Ça a duré 5 siècles. Israël est en train de passer par les moments les plus durs, la période la plus dure de son histoire avec Dieu. Pas avec Nabucodonosor et ses successeurs et les autres qui vont venir après lui, mais avec Dieu. Parce que le problème de Juda, le problème d'Israël, c'est Dieu. Comment Dieu a-t-il abandonné son peuple pendant tous ces temps? Comme nous avons eu à le dire une fois, Israël, lors de la déportation, perd trois choses importantes. Il perd le temple, parce que c'est là qu'on rencontre Dieu. Il perd la terre de ses ancêtres, parce que cette terre n'est pas n'importe laquelle, c'est la terre que Dieu a visitée, où il y a un peuple élu. Troisièmement, il n'y a pas de roi. Le roi qui règne sur eux, maintenant, c'est un païen. La déportation a fait qu'Israël a été complètement dévasté. Le temple a été ruiné. Le roi a été déporté avec les ministres et tous les hauts fonctionnaires et sa famille. Et toutes les personnes ayant une certaine valeur, sauf les pauvres, toutes ces personnes-là sont parties en terre païenne. Alors c'est vers la fin de cette longue période que Dieu parle à Ésaïe. Pour dire à Ésaïe de dire, consolez, consolez mon peuple. Parce que le Seigneur a choisi que maintenant la corvée, le temps de la corvée est rempli et le châtiment qui était réservé à Israël est complètement accompli. Dieu choisit ce moment pour redire à Israël qu'il ne l'a jamais abandonné. Dieu sort de son silence finalement pour dire à Israël que je suis là. J'ai toujours recherché ton bonheur et je m'engage désormais à te consoler. Mais le message de consolation, si nous l'avons très bien lu, a effectivement des conditions. J'ai aimé le texte de Luc qui a été réinterprété assez correctement par l'évangéliste Luc qui a pris Ésaïe 40 et je crois que c'est lui sur lequel nous allons essayer de voir quelles sont les conditions que le Seigneur pose. De préparer le chemin, dit Seigneur. Rendez droit ces sentiers. Le ravin doit être comblé. La montagne et la colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés. Et enfin, les chemins rocailleux seront aplanis. Et plus, si cela est fait, tous verront le salut de Dieu. Le prophète est utilisé ici pour dire qu'il faut ouvrir une autoroute. Il faut ouvrir une route qu'on appellerait route nationale, une route suffisamment plane, qu'on appelle en anglais highway, c'est-à-dire une route où on ne va pas rouler à 40 km à l'heure, mais à 100 et à 120. Elle est tellement plane, elle est tellement ouverte, cette voie-là, qu'elle va conduire sans obstacle à destination. C'est cette route-là qu'il faut ouvrir. Et c'est ce dont parle aussi Ésaïe 35, que nous avons lu, dit qu'il y aura une route sacrée, que seuls prendront ceux-là que le Seigneur libère. Et sur cette route-là, fort heureusement pour Israël, on ne marchera pas seul. Alléluia. On marchera accompagné par le Seigneur. C'est ce qui nous rappelle Noël. C'est une route nouvelle, bien-aimée, que le Seigneur a ouverte pour que nous cessions de marcher nous-mêmes. Nous cessions de porter le poids de la vie nous-mêmes. Nous cessions de porter nos inquiétudes nous-mêmes. L'inquiétude pour le présent et même pour l'avenir, non. Les fardeaux qui pèsent lourdement nous-mêmes. Le poids de l'âge nous-mêmes. Le poids d'une longue attente de telle ou telle autre chose nous-mêmes. Nous devons les porter avec le Seigneur. Alléluia. Cette voie-là est appelée la voie de sainteté. Parce qu'il n'y a que les sanctifiés par l'Éternel qui vont marcher sur cette route-là. Et n'est pas n'importe laquelle, il n'y a que ceux-là dont les dispositions du cœur ont été transformées, façonnées, qui pourront marcher sur cette route de la célébration du salut. Voilà pourquoi il dit qu'il faut combler toute vallée. Il faut combler toute vallée pour accueillir un si grand salut que Dieu nous donne à travers son Fils Jésus-Christ. Mais que Dieu a donné à Israël lorsqu'il a libéré de la servitude à Babylone. C'est pourquoi ils disent dans le psaume 126, quand le Seigneur nous a délivrés, nous étions comme en train de rêver. Et ils ont ajouté, ceux qui sèment en pleurant récolteront avec quoi? Avec chant d'allégresse. Parce qu'ils ont beaucoup pleuré, mais les temps de pleurs sont arrêtés à partir du moment où Dieu se met dans la danse pour marcher désormais avec son peuple. Mais pour y arriver, il faut combler les vallées. Qu'est-ce que représentent les vallées pour nous? Il y a des vides que cachent parfois nos fausses apparences. Il y a des vides que cachent parfois les fausses apparences. Ceux qui apparaissent bien ne sont pas les bien portants spirituellement. Non, il y a des vides. Des gens qui sont matériellement aisés, ils changent de voiture. Ça ne peut pas être comme nous, on a une voiture depuis 2016, on continue à rouler avec jusqu'en 2025. Non, ils changent de voiture chaque année. On renouvelle aussi la garde-robe. C'est-à-dire qu'il y a des habits qu'on a portés en 2017, qu'on ne peut plus porter en 2019. On change aussi d'emploi. Il y a des gens qui ne sont pas stables, ils sont dans une ONG aujourd'hui, demain on les voit dans une autre, après demain dans une autre. Toujours en train de changer. Et quand j'ai posé la question à quelqu'un, tu changes en fait pourquoi? Il dit, bon, on a ajouté un tout petit peu et alors je suis allé. Un tout petit peu, pour ça on peut changer. Mais il y a aussi des gens qui changent de partenaire. Tu trouves que ta femme est déjà démodée, tu dis, où est Anistahi? Ça, ce sont des vides. Le fait de changer de partenaire, c'est une réalité, mais en fait, c'est une fausse apparence, n'est-ce pas? C'est une fausse apparence. Je crois vous avoir déjà dit qu'un jeune homme m'avait posé la question, « Pasteur, ta femme, c'est combien d'années ?» À ce moment-là, j'avais 20 ans avec elle. J'ai déjà fait 20 ans. Alors, il m'a posé la question, « Mais qu'est-ce qu'elle t'a donné pour rester 20 ans avec elle ?» Ça, ce sont des fausses, des vides qui cachent des fausses apparences. Il y a des vides dans notre vie qui ne peuvent être comblés que par le Seigneur lui-même. Alléluia. Toute montagne et toute colline sera abaissée. Rappelez-vous de l'histoire des pharisiens et des publicains qui tous les deux vont au temple. Nous sommes à Luc 18. Les pharisiens disent quoi? Ils disent, Seigneur, moi je ne suis pas comme ces gens-là. Ce sont des voleurs, ce sont des adultères. Moi, il dit moi je jeûne deux fois par semaine et puis je donne la dîme de tout. Tandis qu'à côté de lui, il y avait un publicain qui n'était même pas capable de lever les yeux vers le Seigneur. La Bible dit que celui qui s'est élevé a été abaissé. Et celui qui s'est abaissé a été élevé. Bien-aimé, il faut toujours faire attention. Lorsque le Seigneur t'élève, même spirituellement, tu peux être un obstacle. Cette élévation spirituelle peut constituer un obstacle pour que le Seigneur cesse de continuer à t'utiliser. Ça vaut pour tout le monde, que ce soit dans la chorale, que ce soit parmi les prédicateurs, que ce soit parmi les intercesseurs. Chacun d'entre nous doit toujours faire attention parce que toute montagne et toute colline doit être abaissée. Parce qu'il n'y a que Dieu qui doit être élevé. Et quand nous les élevons au-dessus de Dieu, là, nous prenons ce qui revient à Dieu, nous sommes en train de nous maudire nous-mêmes. Et nous perdons la bénédiction. Et nous la faisons perdre aux autres. Les courbes de la route seront aussi redressées. C'est ce que disent les prophètes. On parle trop des handicaps physiques, mais il y a aussi des handicaps spirituels. Est-ce que je peux en citer quelques-uns? Quand tu ne sais pas dire comment tu as cru au Seigneur et tu évolues pendant des années sans aucune assurance de ton propre salut. Mais quand on te demande de donner le témoignage, tu balbuties. Tu n'es pas en mesure de dire exactement comment cela s'est passé. C'est un handicap. Ou tu es dans l'église pendant longtemps, mais tu restes bébé spirituel, immaturité spirituelle. Ou tu écoutes la parole tout le temps, mais cette parole ne produit aucun effet dans ta vie parce que tu vis une vie de désobéissance à la parole de Dieu. C'est un handicap spirituel. Ou alors, tu ne sais jamais attendre le temps de Dieu. Souvent, quand on ne sait pas attendre le temps de Dieu, on commet des erreurs graves. Tu pries pour un sujet, peut-être pour avoir une fiancée, ou avoir un fiancé, mais tu ne sais pas attendre le temps de Dieu. À un moment donné, tu dis, apparemment Dieu ne va pas répondre. Alors, aide-toi et le ciel te dira. Ce verset n'existe pas. Ce n'est même pas un verset biblique. Tu es agité. Tu ne sais pas attendre ou tu ne sais pas percevoir ce que Dieu dit. Tu as des problèmes. C'est un handicap spirituel. Tu es indifférent aux choses de Dieu, à la prière, à la lecture de la parole de Dieu. Tu es colérique. Tu es orgueilleux. Tu es obstiné. Quand tu as une position, tu veux imposer cette position-là. Ça, c'est un handicap physique, spirituel. Toutes ces choses-là te rendent courbé, t'empêchent de vivre de façon droite, de tenir droit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à Jésus qui a dit, selon Matthieu chapitre 12, verset 20, que lui, il ne brise pas les roseaux qui courbent, il n'éteint pas la lampe qui fume un tout petit peu, ou les lumignons qui fument. Lui, humain, peut créer des choses nouvelles en toi. Les chemins mauvais qui doivent être égalisés, les chemins mauvais qui sont en état d'être égalisés, ça peut nous aider quand nous voyons comment les routes de la ville de Goma commence à se détériorer. Vous êtes en train de voir. Est-ce que vous voyez comment la chaussée publique, la voie publique est en train de se détériorer petit à petit, n'est-ce pas? C'est comme ça que la vie spirituelle aussi se détériore petit à petit. Il y a des trous, on les laisse. Un petit trou sera un grand trou. Une petite brèche que tu as laissée dans ta vie deviendra finalement un grand trou. Il faut donc des changements immédiats et radicaux. C'est à ça que le texte est en train de nous rappeler. Alors pour finir, quelle aura été l'importance de ces images? Les images ont été utilisées aussi bien dans Ésaïe 40 que dans Luc chapitre 3 pour montrer que la voie pour préparer l'arrivée où la venue du Seigneur doit être complètement libérée. Il faut qu'elle soit complètement libérée. Il faut que dans nos vies, nous fassions une toilette pour qu'il n'y ait pas de vide à combler. S'il y a des vides, il faut les combler. S'il y a des choses qui s'élèvent dans notre vie, il faut demander à Dieu de nous faire grâce pour que nous puissions baisser et lui être élevés. S'il y a des courbes, s'il y a des handicaps dont nous souffrons, nous ne sommes pas personnes à handicap physique, mais nous sommes personnes à handicap spirituel dans notre marche avec Dieu. Il faut relever la tête, relever les défis. Il faut que Dieu fasse son entrée. Il faut qu'il occupe la place qui lui revient de droit. Et j'ai aimé Ésaïe 40, verset 5 et Luc 3, verset 5. Les deux versets parallèles disent différemment la même chose. Toutes ces choses doivent être faites pour que la gloire de Dieu soit dévoilé, dit Ésaïe 40, verset 5. Mais Luc chapitre 3, verset 5 dit, pour que tous voient le salut de Dieu. Donc la conséquence de tout ce travail qui doit précéder la venue du Seigneur ou l'arrivée du Seigneur, c'est que chacun de nous doit faire sur lui-même, c'est pour un but. Il faut que la gloire du Seigneur soit révélée. Mais aussi il faut que le salut de Dieu soit vu de tous. Le mot gloire dans l'Ancien Testament, kabod, signifie poids, poids. C'est-à-dire ce qui nous donne de la valeur, ce qui donne de l'importance à moi en tant qu'individu, de la valeur à ma famille, de la valeur à cette communauté de foi, de la valeur à une société comme la nôtre, de la valeur à une nation, c'est Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Si cette présence de Dieu est significative dans la vie de chacun, de tous ceux qui confessent que le Seigneur est leur Dieu, bien des choses vont changer. Et le salut de Dieu va atteindre un plus grand nombre. Nous recevons le salut ou la délivrance de Dieu pour que cela soit pour un plus grand nombre. Ma prière est que le Seigneur accorde à chacun de nous la grâce que la Noël 2019 ne soit pas célébrée comme les autres Noëls que nous avons traversés. Je termine par une note d'espoir, d'espérance que le Congo se relèvera. Alléluia! Le Congo se relèvera. La République dite démocratique, je crois que c'est ça qu'il faut dire, hein? La République dite démocratique sera à un moment donné, comment? Démocratique. Mais il faut la contribution de tous les croyants que nous sommes. Là où Dieu t'a placé, là où le Seigneur t'a placé, en famille, comme à l'école et dans tout ce que tu fais, pour que le salut de Dieu soit révélé à tous et que sa gloire se manifeste. La délivrance que Dieu apporte ne vise pas seulement un individu, mais elle est d'une large étendue. Nous avons, nous, qui avons le Seigneur, la lourde responsabilité de le vivre, de le laisser nous conduire, prendre la direction totale de toute notre vie. Et la gloire de Dieu va se répandre, le salut de Dieu va s'étendre sur tous.